je crois profondément à une espèce de hiatus absolument vertigineux et démoniaque presque entre le sujet qui aime, le sujet qui pense, le sujet qui parle d'une part et d'autre part le sujet qui écrit. Je crois qu'il y a un hiatus terrible entre l'écriture et la personne en tant qu'elle veut se faire aimer, en tant qu'elle aime. Et je ressens toujours d'une façon poignante le fait que souvent j'écris pour être aimé, au fond, pour être aimé, peut-être même parfois de tel ou tel. Et en même temps, je sais très bien que cela ne se produit jamais, qu'on n'est jamais vraiment aimé pour son écriture, voyez-vous.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Écrire pour être aimé, bien sûr, mais aussi penser et parler pour atteindre l'autre, en être reconnu, pour former cette communauté de langage où, là seulement, il se sentait pleinement chez lui. Roland Barthes, la magie de cette voix douce, lente, reflet d'une pensée en train de s'élaborer, de s'incarner, d'une intelligence souple où le doute, l'ironie, laisse toujours à qui l'écoute la place de la réflexion personnelle. De tous ces intellectuels français des années 60 et 70 qui ont fait la réputation de la France dans les universités étrangères, Barthes demeure le plus proche de nous, car le plus actuel toujours, et le moins jargonnant des structuralistes. Sans doute parce que son désir jamais assouvi de déchiffrement du monde, son goût des signes du présent et de ce qu'il nommait joliment la soie de la vie, sont exactement les moteurs dont nous avons besoin aujourd'hui. De 72 à 76, Chantal Thomas eut le privilège de participer au séminaire qu'il dirigeait à l'École pratique des hautes études. Privilège qui, se souvient-elle, plaçait cette poignée d'étudiants un peu à part des autres, agacés et envieux de cette petite communauté soudée par un langage commun et conscient d'être à une place privilégiée. De ce temps-là, ayant depuis fait de l'écriture son métier, Chantal Thomas garde une nostalgie joyeuse et une immense reconnaissance envers ce maître atypique qui leur a transmis la liberté et la rigueur. Dans un petit livre regroupant les textes écrits à son propos paru au Seuil sous le titre « Pour Roland Barthes », elle s'acquitte élégamment de cette dette en s'attardant sur quelques-uns de ses terrains de prédilection et en nous livrant de jolies histoires sur ses années d'apprentissage. En septembre, Arte diffusera un documentaire qu'elle a réalisé avec son frère Thierry sur le théâtre du langage du sémiologue. Chantal Thomas est ce soir l'invitée de l'Humeur vagabonde.
À travers ton corps, forcer la serrure de ce coffre-fort, réchauffer ton sang, lécher la blessure, lécher la blessure, car je suis une femme qui pleure, une femme qui pleure, mais aucune larme ne coule, ne coule. Si tu es muet, je t'achète une langue. Si tu es aveugle, voilà mon regard. Je vais arracher la peau de ton cœur, la peau de ton cœur, car je suis une femme.
je suis une femme qui pleure, une femme qui pleure, mais aucune larme ne coule.
Mon expérience d'enseignant est extrêmement particulière et je dirais que probablement elle est très privilégiée. Je n'ai bien entendu avec mes étudiants, cette expression étant déjà un petit peu forcée, n'est-ce pas ? Je n'ai bien entendu aucun rapport de type paternel. Je n'ai aucune vocation à être un père pour eux. Ce qui m'importe, et je crois que c'est ce qui leur importe à eux aussi, c'est d'établir un rapport que je dirais franchement et tout de suite de type affectif, mais, je le répète, à l'intérieur de cette sorte d'éthique de la délicatesse et de l'indirect dont j'ai parlé, un rapport affectif à travers lequel se manifestent tous les problèmes qui ont trait à l'écriture. Quand on me demande qui sont vos étudiants, qui vient vers vous, je ne sais jamais répondre à ces questions. Je ne sais pas très bien d'où ils viennent universitairement. C'est très varié, ils ont des âges variés, il y a beaucoup d'étrangers. Donc je ne peux pas unifier mon auditoire. Mais je pense qu'il y a entre eux tous, entre tous les sujets qui sont là, je pense qu'il y a quelque chose de commun qui est de s'intéresser à l'écriture et de pressentir que l'écriture est une jouissance. Je crois que c'est cela qui les unit tous et au fond, c'est un peu cela qui est mis en scène dans le séminaire à travers cette relation affective, je dirais même presque amoureuse.
C'était la voix de Roland Barthes en 1976. Bonsoir Chantal Thomas.
Bonsoir.
1976, vous étiez encore proche de lui, vous aviez participé à ce séminaire. Et c'est joli d'entendre cet homme qui était un maître quand même dire « mais au fond, voilà, je n'ai pas une relation paternelle, donc pas de maître à élève, on a une relation affective ». Et ça, ça se sent beaucoup dans les textes que vous lui consacrez.
Oui, ce en quoi il cassait la relation paternelle, c'est qu'il cherchait nullement à intimider par un savoir. Et que ce qu'il cherchait à transmettre était de l'ordre de l'incertain, du fragile, et plutôt de l'interrogation. Et dans les moments où il tenait ce séminaire, lui-même écrivait un texte, et le travail qu'on faisait au séminaire était comme dirigé vers une écriture en cours. Et pour moi, c'était un bonheur de voir quelqu'un dans le présent d'une activité au lieu de subir ces personnages qui souvent ne font que lire des notes très anciennes sur des textes lus très anciennement.
Là, et d'ailleurs, vous avez une expression absolument formidable et on rêverait de l'appliquer à nos maîtres anciens. Vous écrivez, Chantal Thomas, « on ne venait pas pour apprendre, mais pour comprendre
». Et pour... Pour écouter aussi. Il y avait une des choses qui était frappante, c'était des groupes très petits, à peine une quinzaine de personnes, où il y avait une extrême complexité dans les gradations d'amitié, de désir. Ça comptait beaucoup et cette affectivité avait mille nuances. Et aussi, les temps de silence existaient. Et déjà, il y a un silence dans la voix, dans la diction de Roland Barthes, qui casse le rythme, je trouve, pressé, du quelque chose à dire. Et à l'intérieur même du séminaire, il y avait comme des pauses, une attente. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de magique. Ça relève du merveilleux, de la liberté de l'enfant qui joue.
Est-ce qu'il y avait aussi, alors que c'est assez étrange d'employer le terme quand on parle d'un enseignant et des enseignés, quelque chose que Jean-Pierre Vernant expliquait ressentir lui aussi lorsqu'il apprenait ses humanités, c'est la philia, c'est-à-dire cette amitié à la grecque entre gens de conditions différentes, d'âges différents, mais que réunit un même appétit pour une science, pour la vie, pour l'échange.
Oui, oui. Tout ça dans une sorte de diversité profonde et aussi des degrés très très différents dans la dans le désir d'écrire. Et je pense que quelque chose qui, en effet, quelque chose qui réunissait ces gens, ces jeunes gens, hommes et femmes, c'était une sorte de disponibilité étonnante.
Le désir d'écrire était présent, c'est-à-dire quand vous vous rappelez qui était avec vous autour de cette grande table, on sait qu'il y avait Colette Felous, qui effectivement est devenue écrivain, elle aussi. Il y avait beaucoup de ce désir d'écrire, alors écrire de la vraie littérature, écrire des essais universitaires. Il y avait une confrontation à l'écriture évidente ?
Confrontation, non, parce que c'était quelque chose que chacun gardait un peu d'une manière solitaire. Et Roland Barthes était vraiment le contraire du professeur d'écriture au sens de creative writing, par exemple. Et il l'a dit souvent, je ne pense pas qu'il avait envie de lire les textes qu'on lui proposait. Bon, Patrick Moriès a eu une expérience contraire, parce que je crois qu'il a écrit quelque chose qui a tout de suite plu. Mais lui-même était en proie à la question de qu'écrire et comment écrire. Donc c'est plutôt ça qui était frappant, c'est qu'il exposait son propre cheminement. Voilà, c'est ça qu'il donnait, c'est ça qu'il transmettait. Il transmettait le non-savoir et que l'écriture se résout par la seule pratique. Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de cheminement vers. Et c'est ça qui était aussi du côté zen, parce qu'il ne nous donnait pas de recettes.
Alors c'était aussi Roland Barthes, quelqu'un qui était regardé avec beaucoup de méfiance et d'envie de la part des universitaires installés. On sait qu'il n'avait pas les titres pour enseigner à l'université, c'est pour ça qu'il était à l'école des hautes études d'ailleurs. Et il a été beaucoup critiqué et en fait il n'en a... Comment est-ce qu'il le ressentait ? Parce que, on connaît bien son texte sur Racine et la réponse qu'il a faite ensuite quand il a été attaqué, mais il n'avait pas l'air de souffrir de cette posture à l'extérieur.
C'était une extériorité très relative. C'était une sorte de marginalité, mais en frôlement avec l'institution. Et il ne s'est jamais détaché de l'institution. Mais il avait aussi cette liberté qui s'exprimait brillamment avec tel quel ou Philippe Solers ou Pierre Guyotat, qui était la quête de vraiment du nouveau. Et une des choses, je pense, qui attirait vers lui, c'était des mythologies. Une pensée qui est à la fois du côté d'une harmonie profondément classique et d'une musique dans une douceur, on l'a entendu, mais aussi un désir et une curiosité totale pour ce qui est en train d'advenir, pour ce que le monde nous donne à voir ou à comprendre.
Alors dans les textes que vous lui avez consacrés, Chantal Thomas, il y en a que vous venez d'écrire, mais il y a des textes plus anciens. Vous revenez sur ces chemins que Roland Barthes a arpentés pendant toutes les années où il a écrit, publié, rassemblé des étudiants autour de lui. Et il y a quelque chose qui le caractérise beaucoup, bien sûr, c'est que c'était un provincial, qu'il venait du Sud-Ouest, il en a parlé longtemps, et qu'en même temps, c'était un provincial qui s'était recréé ses habitudes parisiennes. Il était autant de Paris que de Urth, dans le Sud-Ouest, sur les bords de la Dour. On va l'écouter parler de ces routines qu'il aimait tant.
Ce qu'il y a de bien dans Paris, c'est que justement, il y a de la province dans Paris. Ce n'est pas le contraire de la province. C'est la province plus quelque chose. Il y a dans Paris ce qu'on appelle maintenant un plus de sens. Et c'est ça qui me fascine dans Paris. Mais cela dit, pour le fond, comme beaucoup de Parisiens, je vis à Paris comme si j'étais dans une province. Je ne sors pour ainsi dire pas de mon quartier que je connais par cœur. J'ai mes routines au sens étymologique du mot, c'est-à-dire mes petites routes qui me conduisent toujours aux mêmes endroits. Il y a des quartiers de Paris que je ne connais pour ainsi dire pas, où je ne vais jamais, et quand par hasard j'y vais, j'ai une impression de dépaysement très très forte, comme si j'allais vraiment dans une autre ville. Dans un quartier comme le mien, il y a à la fois effectivement un sentiment constant de très grande familiarité par rapport aux visages, aux gens qu'on rencontre, et en même temps l'excitation tout de même d'un nouveau toujours possible. Je dois dire franchement que quand je vais en province, je ne sens jamais cette excitation du nouveau possible dans la rencontre. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à supporter en général la province. Mais c'est sans doute un point de vue de Parisien assez injuste, n'est-ce pas ?
Un point de vue de Parisien, c'est assez joli comme, comme remarque. C'était l'enfant d'Urte dans les Pyrénées-Atlantiques. Et il en parle beaucoup de cette maison où il a grandi auprès de sa mère. C'était un enfant... pauvre, enfin d'une famille sans père, donc assez élevé par une mère dans des difficultés financières. Et en même temps, comme il le dit, il était devenu parisien, très reconnu, assez d'ailleurs heureux de cette reconnaissance publique, de sa notoriété. En fait, c'est un homme qui cultivait, on a l'impression, Chantal Thomas, la joie de vivre quand même, avec une grande mélancolie. C'est ça qui est curieux. Il était heureux de ce qu'il avait, il était bienveillant, il n'était pas aigre, et en même temps, il était mélancolique.
Je pense qu'il a un trait qui le caractérise et qui est très, très curieux, qu'il était à la fois doué d'une intelligence, il parle un moment dans une lettre de son intelligence métallique. Il avait une intelligence extrêmement rapide, lucide, et qu'il faisait toujours aller plus loin. Et une sensibilité romantique. Et je pense qu'une des étrangetés de Roland Barthes, sa profonde singularité et peut-être sa profonde douleur s'agissant d'aimer, était dans cette distorsion. Et donc son intelligence était extrêmement tonique, toujours en veine de découverte, mais sa sensibilité était angoissée et du côté du voyage d'hiver.
Et en plus, c'est lui qui a fait cette distinction entre écrivain et écrivant. Ce qui est fascinant chez cet homme, on l'entend d'ailleurs, qui a une telle facilité, un tel brillant dans l'élocution, dans le langage, une plume formidable, c'est qu'il se tenait au bord de la littérature. Et il est mort au moment où on sentait qu'il allait basculer dans l'écriture réelle. Il est resté du côté de l'écrivant, comme s'il s'interdisait, peut-être à cause de son admiration pour Proust, de sauter le pas. Vous le ressentiez déjà vous-même comme ça ?
Moi, surtout en le relisant maintenant, j'ai plutôt le sentiment que, à sa façon, il a écrit l'histoire de la recherche du temps perdu, qui est l'histoire de quelqu'un qui devient écrivain. Et lui, très tôt, parce qu'il a une sorte de justesse extraordinaire dans la formulation, aussi bien écrite que parlée, très tôt a eu ce rythme et cette clarté. Mais par le détour de la scientificité, il a... inventé des mots, il a joué avec les néologismes, il a utilisé ce qu'on a décrit comme un jargon, mais lui-même dit qu'entre la platitude et le jargon, il choisit le jargon. Et donc il était du côté d'une langue de la métamorphose. À sa façon, très tôt, c'est un écrivain magnifique. Et si on lit les préfaces qui jalonnent toute sa carrière, elles sont splendides, aussi bien sur Chateaubriand que sur Proust. Mais le détour, le vrai pavé de science, c'est le discours de la mode, le système de la mode. Mais de là, on pourrait suivre une trajectoire extrêmement réfléchie, lente, mesurée, mais captivante, qui l'amène à l'effusion finale de la chambre claire. Le seul discours d'une coulée où, je crois, il se réconcilie avec l'abandon.
Alors cette écriture, ça a été sa grande affaire. On va l'écouter, c'est une archive qui date de 1977.
Si on se sent soi-même être un sujet aimant, visant à être aimable, visant à s'épanouir dans l'amicalité, dans la tendresse, par rapport à cela, l'écriture est une activité terriblement sèche, violente. Violente, je ne dis pas tempétueuse forcément, n'est-ce pas ? Mais violente et insupportable, frisant tout le temps l'arrogance, l'assertion dogmatique. Je sens tout cela dans l'écriture, en tout cas dans mon écriture. C'est pour ça que je répugne toujours à me relire. J'ai toujours peur de me voir dans un miroir qui ne me plaira pas. dans l'acte d'écrire, il y a tellement de choses du point de vue psychique qui se mélangent. Il y a une jouissance d'écriture. Ça reste très énigmatique, mais il est incontestable que ça existe. Il y a le fait qu'on aime écrire, qu'on a envie d'écrire, quelles que soient les difficultés intérieures du texte qu'on est en train de faire, on y va comme quelque chose vraiment qui vous appartient et qu'on fait vraiment avec jouissance. Mais alors, en même temps, il y a d'autres choses là-dessus. Il y a tous les fantômes de protection, tous les surmois, toutes les images, tous les imagos, tous les impératifs doctrinaux, ce qu'on se doit à soi-même par rapport à son passé, par rapport aux gens qui vous entourent. Et tout ça se mélange avec la jouissance même d'écriture.
Chantal Thomas, on sent, il le dit à plusieurs reprises dans ses entretiens, dans ses écrits, que la crainte qui l'habite lorsqu'il écrit, c'est de l'infatuation. Il avait très très peur de devenir dogmatique, content de ce qu'il faisait. Il y avait en permanence ce souci de, c'est pas d'humilité, mais c'est de simplicité.
Et cette peur, parce que la peur était son élément, ça aussi c'est un paradoxe. La peur et la jubilation, la peur et l'ironie. Cette peur de l'arrogance, du langage constitué, figé, fait qu'il ne se répète pas et que chacun de ses livres, on l'a dit, était vraiment un événement. Et chacun de ses livres même était dessiné d'une manière différente. C'était des vrais objets qu'on aimait et qu'on attendait. Et de livre en livre, il va plus loin, ou en tous les cas, il découvre autre chose, et vers l'avenir. Et je pense que à la fin, quand il dit qu'il désire le roman parce qu'il veut changer de genre, c'est quelque chose qu'il a fait à chaque livre. Il a changé de genre, et au moment de style... De style, pas vraiment, mais de préoccupation et de sujet. Mais pour moi, les deux grandes coupures, c'est vraiment le plaisir du texte et l'Empire des signes. Avec l'Empire des signes, justement, parce qu'il est loin, parce qu'il est dégagé de l'idéologie, de la francité, il découvre le pur plaisir du geste et du geste d'écriture et d'un ciel sans concept.
L'humeur est vagabonde sur France Inter.
J'aime la salade, la cannelle, le fromage, les piments, la pâte d'amande, l'odeur du foin coupé, les roses, les pivoines, la lavande, le champagne, des positions légères en politique, Glenn Gould, la bière excessivement glacée, les oreillers plats, le pain grillé, les cigares de Havane, Handel, les promenades mesurées, les poires, les pêches blanches ou de vigne, les cerises, les couleurs, les montres, les stylos, les plumes à écrire, les entremets, le sel cru, les romans réalistes, le piano, le café, Pollock, Twombly, toute la musique romantique, Sartre, Brecht, Jules Verne, Fourier, Eisenstein, les trains, le Médoc, le Bouzy, avoir la monnaie, Bouvard et Pécuchet, marcher en sandales le soir sur de petites routes du sud-ouest, les Marx Brothers, le Serrano à 7 heures du matin en sortant de Salamanque, etc. Je n'aime pas les loulous blancs, les femmes en pantalon, les géraniums, les fraises, le clavecin, Miro, les tautologies, les dessins animés, Arthur Rubinstein, les villas, les après-midi, Satie, Vivaldi, téléphoner, les chœurs d'enfants, les concertos de Chopin, les danseries de la Renaissance, l'orgue, Marc-Antoine Charpentier, ses trompettes et ses timbales, le politico-sexuel, les scènes, les initiatives, la fidélité, la spontanéité, les soirées avec des gens que je ne connais pas, etc. J'aime, je n'aime pas. Cela n'a aucune importance pour personne. Cela apparemment n'a pas de sens. Et pourtant, tout cela veut dire « Mon corps n'est pas le même que le vôtre ».
1975, Roland Barthes par Roland Barthes. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, Chantal Thomas, que tout d'un coup, Roland Barthes est devenu à la mode, il est passé à la télévision, évidemment, apostrophe. On lui a même demandé de tourner dans un film, un rôle étrange, dans un film de Téchiné sur les sœurs Bronté. Et que c'est assez étrange de voir un intellectuel de cette envergure se prêter si volontiers à ces jeux de mode, de popularité. Au fond, est-ce qu'il aimait ça?
Oui, parce qu'il a, il a toujours été un intellectuel impur, au sens où, il le dit lui-même, c'est pas l'idée qui l'intéresse, c'est ce que le mot l'amène à penser. Et quand il passe d'une phase à l'autre, c'est à chaque fois plus des mots qu'il expérimente que des systèmes philosophiques. Et donc, ce que lui offre la renommée, la célébrité, c'est-à-dire de diversifier ses interventions, il adore, parce que les interventions prévues dans le cadre de colloques ou de tables rondes, ça le fait mourir d'ennui. Mais il le fait très bien, parce que c'est quelqu'un qui a le sens du métier, de la transmission, de l'enseignement. Mais que André Téchiné lui propose de jouer dans son film, ça lui plaît, même s'il en est malade d'angoisse. Parce que ce qui est indissociable dans ses expérimentations et dans ses déplacements, encore une fois, c'est ce lien consubstantiel entre le sens de l'aventure et la peur. Et je pense que tout à l'heure, nous parlions du séminaire. Dans le séminaire, il y avait quelque chose de crispé. C'était tout sauf après 68. C'était pas du tout de l'ordre du copinage. C'était du côté, au contraire, d'un protocole, mais d'un protocole non écrit qu'on inventait au fur et à mesure. Et ça, c'est quelque chose que j'adore et que j'ai fantasmé dans les salons. Aussi, quand je rêve sur les salons, je pense que Mme Dudéfant avait quelque chose de Barthes dans son écoute, qui était une écoute tendre, amoureuse, désirante, mais aussi extrêmement critique et qui pouvait être très dure, même si elle était non exprimée.
Alors c'est vrai, ce séminaire, Chantal Thomas, vous venez de le dire, c'était après mai 68. Et si Roland Barthes faisait partie de toute cette mouvance d'intellectuels de gauche, il se méfiait beaucoup du discours politique. D'ailleurs, il prenait rarement position, même si on connaissait ses tendances. Il n'était pas comme Foucault, dans la rue, comme Deleuze, impliqué. Et ça, alors, cette cet empêchement que vous décrivez justement dans ce séminaire, alors qu'après mai 68, la plupart des professeurs voulaient plaire aux étudiants et en faisaient des tonnes, c'est un côté de Barthes qui reste aussi comme ça très à contre-courant de la période.
Il voulait plaire, mais il voulait plaire à chaque personne individuellement, à chacun dans sa singularité. Alors que le désir de plaire très pédagogique, d'après mai 68, s'adressait à des groupes. Et je pense que la modernité troublante qu'on ressent à lire Barthes maintenant, c'est lié à ça. C'est parce qu'il s'est lui-même, tout en suivant de très près l'actualité, placé d'une certaine façon hors contexte. Et aussi parce que c'est un discours qui n'est pas adressé contre. Et qui est à la fois intellectuel, du côté du désir de comprendre, il y a une soif d'intelligence communicative dans Barthes, mais aussi qui ne lâche jamais cette étrange musique intimiste et indéfinie qui fait qu'on reconnaît sa voix parmi mille.
Alors, il y a une chose chez Barthes que moi j'ai trouvé très touchante aussi, c'est cette passion qu'il avait pour Michelet, parce que Dieu sait si ce sont des univers en apparence très lointains. Bon, il l'a lu, on sait que lorsqu'il était au sanatorium, il a dévoré beaucoup de livres, beaucoup de classiques évidemment, mais cette tendresse, cette passion, cette admiration qu'il avait pour Michelet et pour le style de Michelet, il y avait aussi un autre lien entre eux, c'était la migraine, parce qu'il était fasciné par la façon dont Michelet vivait, écrivait avec sa migraine. Il a beaucoup écrit aussi là-dessus.
Alors, pour moi, c'est très important, je pense, en effet, la place de Michelet dans l'œuvre de Roland Barthes, mais dans sa vie entière. Parce qu'avec Michelet, il a dès l'abord découvert un homme de science incroyable, un historien infatigable, mais quelqu'un qui risque son discours au style, au corps, à la sensualité, à ce qui nous échappe. Parce que je pense que c'est ça aussi qui, l'espèce de vertige qu'on a quand on lit Barthes, c'est qu'à la fois c'est un discours dominant intellectuel, mais c'est une écriture qui se laisse happer par l'inconnu que chacun a en soi. Et dans Michelet, il est emporté aussi par les horaires. C'est un homme de la régularité, un homme de l'emploi du temps, et Michelet avait des horaires draconiens. C'est aussi un homme amoureux du travail, et c'est aussi quelqu'un ce qu'il aime dans Michelet aussi, c'est l'enseignant. Il citait beaucoup la phrase de Michelet, enseigner ce qui n'a lieu qu'une fois. Et ce paradoxe, lui-même l'a intériorisé. Mais il est aussi quelqu'un qui se lance amoureusement dans des nouvelles vies. Et ça, c'était un des rêves de Barthes, même s'il ne l'a pas réalisé.
Voilà, justement, cette Vita Nuova, c'est très émouvant de l'entendre. Et d'ailleurs, on va lui donner la parole. C'est ses cours du Collège de France qu'il a fait. Il était très heureux d'y rentrer, grâce d'ailleurs à Foucault aussi. Sa leçon inaugurale, c'était le 7 janvier 1977. Et il a parlé de Michelet et de sa Vita Nuova.
Si donc je veux vivre, je dois oublier que mon corps est historique. Je dois me jeter dans l'illusion que je suis contemporain des jeunes corps présents et non de mon propre corps passé. Bref, périodiquement, je dois renaître, me faire plus jeune que je ne suis. À 51 ans, Michelet commençait sa Vita Nuova. Nouvelle œuvre, nouvel amour. Plus âgé que lui, on comprend que ce parallèle est purement d'affection, plus âgé que lui, j'entre moi aussi dans une Vita Nuova marquée aujourd'hui par ce lieu nouveau, par cette hospitalité nouvelle. J'entreprends donc de me laisser porter par la force de toute vie vivante, à savoir l'oubli. Il est un âge où l'on enseigne ce que l'on sait, mais il en vient ensuite un autre où l'on enseigne ce que l'on ne sait pas. Cela s'appelle chercher. Vient peut-être maintenant l'âge d'une autre expérience, celle de désapprendre, de laisser travailler le remaniement imprévisible que l'oubli impose à la sédimentation des savoirs, des cultures, des croyances que l'on a traversées. cette troisième expérience a, je crois, un nom illustre et démodé, malheureusement, mais que j'oserais tout de même prendre ici sans complexe, au carrefour même de son étymologie. Ce nom, c'est Sapientia. Nul pouvoir, un peu de savoir, un peu de sagesse et le plus de saveur possible.
Et le plus de saveur possible. Ça, c'est vraiment, cette leçon, c'est absolument magnifique. C'est une langue superbe et une pensée, j'allais dire, amicale presque. Il autorise beaucoup les gens qui l'écoutent à suivre voilà, cette route-là, cette sapientia.
Oui, parce que il défend et il incarne ce désir de savoir qui est quand même pas tellement célébré maintenant, je trouve. Et ce désir de jamais être coupé de soi. Et il est vraiment quelqu'un qui est contre les réductions mortes. Et ça, c'est ce que j'ai immédiatement aimé en lui et ce qui m'a, d'une certaine façon, sauvée. Parce que pour aller contre les réductions, il ne faut pas non plus se détourner du savoir et, en tous les cas, de l'extension de soi, d'un soi intérieur. Et sa sagesse, je pense que c'est d'aller d'objet en objet et à chaque fois d'en tirer ce qui, pour lui, est la saveur et la saveur vitale. Et par là, c'est l'autre qui est cueilli.
Alors, en cette année 2015, Roland Barthes aurait eu donc 100 ans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de lui. Il y a votre livre, Chantal Thomas, pour Roland Barthes. Il y a la monumentale et passionnante biographie de Tiphaine Samoyeau, Roland Barthes. Tout ça paraît au Seuil. Il y a ses œuvres complètes au Seuil. Il y a aussi un très bel album signé par Éric Marty avec de la correspondance. Et puis, il y a une exposition qui s'est ouverte à la BNF, François Mitterrand, sur le site François Mitterrand. Elle a commencé le 5 mai, elle se poursuit jusqu'au 26 juillet 2015. Ça s'appelle Les Écritures de Roland Barthes et on y trouve évidemment beaucoup de manuscrits. Donc on voit cette belle écriture hein, qui était très harmonieuse. Il y a toutes ces pages qui sont là, raturées, mais avec une écriture toujours belle, équilibrée. Et puis il y a aussi ses illustrations, puisqu'il peignait beaucoup lui-même et il illustrait un certain nombre de ses livres. Alors bien sûr, c'était l'occasion ce soir de parler de cette exposition à la BNF. Et c'est vous qui y êtes allée.
Bonsoir.
Martine Abad, bonsoir.
Bonsoir, mais oui, puisque la BNF conserve donc aujourd'hui les archives Roland Barthes. Parmi ces archives, on trouve ses cours, les manuscrits de ses livres, notamment son énorme fichier journal, qui étaient des fiches thématiques qu'il a commencé à constituer très tôt, et puis ses agendas. Et donc la BNF a choisi de montrer le travail préparatoire et le manuscrit de fragments d'un discours amoureux qu'il a publié en 1977. Alors ce livre est né de deux années de séminaire à l'École pratique des hautes études auxquelles vous avez eu la chance d'assister Chantal Thomas. Et Fragments, c'est vraiment, comme plusieurs livres de Barthes, un mélange à la fois de réflexions personnelles de Barthes sur l'amour, de références à la littérature amoureuse et aussi d'interventions des participants au séminaire qu'il reprend dans le livre final. Fragments d'un discours amoureux, c'est le livre qui consacre Barthes vraiment comme écrivain. C'est celui qui le fait connaître du grand public avec un engouement lors de sa sortie en 77. Alors voilà, un petit focus de l'exposition avec Marie-Odile Germain, qui est conservatrice à la BNF et co-commissaire de l'exposition avec Éric Marty.
Donc ce qu'on a voulu dans cette petite salle, c'est donc nous concentrer sur la fabrique d'un seul livre, comme une sorte de trésor. On a voulu montrer aussi, dans la genèse de ces fragments d'un discours amoureux, l'importance de l'enseignement, en fait, puisque ce livre qui est à la fois très privé et finalement lisible par tout le monde, est né de deux années de cours à l'École pratique des études, de son séminaire, et est né aussi d'une histoire sentimentale. Alors c'est ça qui est intéressant dans ce texte, et c'est peut-être pour ça qu'il nous touche aussi. Labo est totalement impersonnel par certains côtés, il est aussi très personnel.
Qu'il était très amoureux au moment où il l'a écrit.
Très amoureux au moment où il l'a écrit. Et donc la première vitrine, en fait, contient un document assez émouvant. C'est un journal qui fait le récit de la rencontre avec la personne dont il est tombé amoureux. Ça commence par l'été éblouissant 1974, par les premières paroles qu'il dit à RH, « Je t'aime », par une nuit de désespoir où ils ne sont pas ensemble. Et puis ensuite, ce petit cahier est constitué de manière assez étrange en colonnes. Avec la première colonne, ce sont les dates. La deuxième colonne, c'est l'anecdote, c'est ce qui se passe. En fait, c'est le récit de l'histoire. Et alors, la troisième et la quatrième colonne, c'est là où, évidemment, Barthes se différencie d'un journal intime habituel. Il y a déjà des thématiques, des figures.
Alors, donc, on peut lire dépendance, sensibilité, lassitude, idée de suicide. Et donc, il a tracé, effectivement, sur la double page, ces colonnes, avec la date, l'anecdote qu'il a envie de relever, la citation. Est-ce que ça lui inspire comme sentiment, finalement ?
C'est cela, exactement. Et comme figure qui va sortir, en fait, de sa vie, de son histoire. Donc, il y a une sorte de mise à distance, bon, qui n'est pas instantanée, mais qui est quand même assez rapide.
Mais qui est rapide, hein ?
Absolument, oui. Donc, c'est vrai qu'il, tout de suite, il arrive à retirer, en quelque sorte, une généralité dans la singularité. Il voulait faire la science du singulier. C'est bien un peu ça, en fait. C'est d'une expérience tout à fait personnelle, intime, mais en même temps tellement générale, en fait. Bon, une expérience amoureuse, il va tirer quelques...
Par exemple, à la date du 20 septembre,
attendant
les téléphones de R. Donc R, c'est son, enfin, voilà, la personne dont il est amoureux.
À Urte. Urte, sa maison de campagne dans le Pays Basque. Et donc la figure qui en ressort, c'est dépendance. Parce que c'est malgré tout les fragments du discours amoureux, c'est sur la passion malheureuse. Malgré tout, hein, c'est la passion amoureuse, c'est celle qui donne à écrire. La passion comblée, en général, ne fait pas trop écrire.
C'est la passion non partagée.
Non partagée, ce qui était parfois le cas, pas souvent le cas, mais parfois le cas dans les grandes passions de Barthes.
Mais dans ce livre, il n'est pas question que de l'amour passionnel. Il est aussi question... de l'amour maternel, un petit peu.
Absolument. D'ailleurs, c'est très émouvant. Bon, on sait que le grand amour de Barthes, ça a été sa mère, et que la disparition de sa mère lui a enlevé l'a plongé dans un désespoir immense, et qu'il en a écrit des choses d'ailleurs superbes. Et ce qui est assez émouvant, c'est que dans l'un des séminaires, justement, sur la figure « je t'aime », c'est-à-dire l'aveu, en fait, à l'être aimé, de l'amour, il y a une petite note, une petite paperole, ces petites fiches justement sur lesquelles Barthes écrit souvent, soit des notes, soit des citations. Il parle de l'étymologie d'amare. Et c'est une étymologie...
Amare, donc en latin.
C'est ça, donc d'aimer, peut-être étrusque, donc il cherche l'origine du mot. Et à un moment, il dit ama, il y a une flèche, et entre...
Il entoure,
et c'est écrit maman. Donc il y a quand même cette présence maternelle qui est très forte. Et c'est vrai qu'il y a l'amour-passion qui est souvent malheureux. Bon, il y a l'amour érotique, et puis il y a ce comblement que seul l'amour maternel pouvait réaliser. Et ça a été vraiment pour lui le sentiment essentiel de sa vie.
Ce que j'ai voulu restituer ou simuler, car c'est un livre de simulation, c'est un livre qui simule un discours, j'ai voulu restituer ou simuler l'espèce de désordre de langage qui se passe, qui passe dans la tête d'un sujet amoureux. On est plongé dans une sorte de désordre profond de ces sortes de bouffées d'épisodes de langage qui vous passent dans la tête, qui fait d'ailleurs que, couramment, enfin, le sentiment populaire, depuis très longtemps, parle de l'amoureux comme d'un fou.
Alors donc, dans ces vitrines, il y a à la fois donc, les grandes feuilles des notes de cours, et puis il y a une sorte de table des matières qui est assez amusante, c'est la table des différentes figures de fragments de discours amoureux.
Alors, il dit figure, mais... c'est les différentes thématiques.
Oui, c'est ça, c'est un peu les thématiques. Oui, c'est ça. L'abandon, l'absence, le ravissement, la rencontre, etc. Alors, c'est un peu tout le problème, en fait, souvent de l'écriture de Barthes, c'est qu'il travaille par fragments. Enfin, on va voir petit à petit les fragments qui vont se mettre en place. Donc, il y a tout un travail de montage, en fait, qui est aussi le travail d'écriture de Barthes.
Là, il y a un texte qui s'intitule, enfin, un fragment, « Je suis fou ». Il dit « Le sujet amoureux est traversé par l'idée... »
Qu'il est ou devient fou.
Qu'il est ou devient fou.
Ben, c'est aussi l'inquiétude du sujet, et puis le regard des autres sur lui, en fait. C'est-à-dire que l'amour est incompréhensible, même pour soi, parfois.
Il ne se reconnaît plus.
Il ne se reconnaît plus, voilà.
Alors là, il parle du ravissement,
oui.
Épisode initial,
oui.
Au cours duquel le sujet oui. amoureux se trouve ravi, capturé oui. et enchanté okay. par l'image de l'objet aimé.
Oui. Non populaire.
Coup de foudre. Coup de foudre. Non savant. Énamouration.
Énamouration. Voilà, l'exposition Les Écritures de Roland Barthes, c'est en ce moment à la BNF et c'est jusqu'au 26 juillet.
Merci beaucoup Martine Abad. Chantal Thomas, dans votre livre, vous racontez que lorsque vous lui aviez dit que vous vous lanciez dans l'écriture, il ne savait même plus sur quoi vous écriviez alors que vous étiez venue avec votre projet d'écriture sur Sade. Donc ce n'était pas effectivement quelqu'un qui se passionnait forcément pour les écrits de ses étudiants, mais... Il vous a sûrement transmis quelque chose et j'aimerais bien savoir quoi. Est-ce que vous pourriez dire quelle est la chose importante, primordiale, qui est importante encore pour vous aujourd'hui et que vous avez acquis à son contact ?
Justement, cette façon de ne pas faire semblant de s'intéresser à l'aventure d'écriture de quelqu'un d'autre. Parce que c'est quelque chose qui ne regarde que soi. Et qui doit d'abord nous combler, même si c'est dans les affres ou l'interrogation ou le doute. Mais c'est comme un geste érotique, quelque chose qui porte en soi sa justification. Et le désir d'écrire, tel qu'il sinuait à l'intérieur du séminaire, en même temps que cheminait la phrase « je t'aime », ce désir, c'était peut-être la façon dont, pour moi, il s'incarnait le mieux. Et j'ai jamais été déçue. C'est comme une musique qui se relance et qui est à chaque fois dans une fraîcheur.
C'est aussi ce lien incroyable qu'il savait mettre entre le désir en tant que tel, l'amour, le désir de vie, le désir des autres... Et cette écriture, c'est assez rare que les maîtres accordent des choses comme ça. On dit toujours l'écriture, voilà, une vie privée, une ascèse presque. Et puis lui, il disait non, l'écriture, elle est liée à ce désir vital.
Mais en même temps, il savait qu'il y a quelque chose qu'on peut montrer d'écrire, de ce que c'est qu'écrire. D'ailleurs, il adorait montrer son écriture graphique à la main. Il savait aussi qu'il y a une fermeture et que écrire s'accomplit en un lieu clos. La chambre noire, dirait Proust. Mmh. Mais la chambre claire irradie de la chambre noire.
Eh bien, merci infiniment, Chantal Thomas, d'être venue nous parler de Roland Barthes ce soir. Je rappelle que votre livre pour Roland Barthes, il vient de paraître aux éditions du Seuil. Le Seuil, d'ailleurs, qui publie, comme je l'ai dit, les œuvres de Roland Barthes, ce très bel album d'Éric Marty, et la formidable et énorme biographie signée par Tiphaine Samoyeau. Merci à vous d'être venue. Bel été, vous aussi, le Sud-Ouest.
Merci. Oui, la lumière.
Et oui, la lumière. Au revoir.
Why can't you just love me? Should I move on? Or should I wait? And how'd you get so high above me? I reach higher every day. But nothing changed. I can hardly breathe.
John Lennon sort de ce corps. Bonsoir Pascal.
Ah, vous m'avez surprise.
Ça vous plaît, Tobias Gesso Jr.?
Mais beaucoup, énormément.
Ah, on a un petit air de John Lennon. Voilà, bah, je voulais vous dire que demain, on parlera de bouffe.
Ouais.
Et que ça sera bien aussi pour terminer la semaine.
Et alors, vous allez joindre l'utile à l'agréable ou...
Ah, peut-être bien, peut-être bien.
Je fais confiance. À demain, Catherine Leva.
À demain, au revoir.